chapitre 4. Lisons aussi le verset 10 du chapitre 3. Après la prédication de Jonas, on lit donc dans le verset 10 du chapitre 3. Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Mais Jonas trouva cela très mauvais, et il fut irrité, et il pria l'Éternel, et dit, « L'Éternel, je te prie, n'était-ce pas là ma parole quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et qui te repent du mal dont tu as menacé. Et maintenant, Éternel, je t'en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. » Et l'Éternel dit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Il se fit là une cabane. Il s'assit dessous à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. Et l'Éternel Dieu prépara un quicajon et le fit monter au-dessus de Jonas pour faire ombre sur sa tête, pour le délivrer de sa misère. Et Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du quicajon. C'est une sorte d'arbre qui pousse très vite. Et Dieu prépara un ver le lendemain au lever de l'aurore, et il rongea le quicajon et il sécha. Il arriva que, quand le soleil se leva, Dieu prépara un doux vent d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas. Il défaillait, il demanda la mort pour son âme, et dit, « Mieux me vaut la mort que la vie. » Et Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du quicajon ?» Et il dit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du quicajon pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître, qui naît en une nuit, a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur gauche, et aussi beaucoup de bétail. » Voilà, c'est un chapitre un peu étrange peut-être. Juste brièvement ce qu'on a eu la dernière fois et là, les deux fois avant. Dans Jonas 1, on a vu donc que Jonas était vraiment un prophète. Il n'est pas appelé prophète dans ce livre, mais on l'a vu dans 2 Rois qu'il est appelé prophète. Et ce qui est encore plus important, le Seigneur Jésus se compare avec Jonas le prophète. On a vu que la seule personne dans l'Ancien Testament avec laquelle le Seigneur se compare immédiatement, c'est avec Jonas. Et on voit donc que Jonas est une image du Seigneur Jésus. On a vu, Jonas est une image du Seigneur Jésus en rapport avec sa situation. Il est entré dans la mort. Et ainsi, le Seigneur Jésus est entré réellement dans la mort. On a vu aussi qu'il y a toujours cette différence dans les types. Il y a quelque chose qui ressemble à la réalité, mais ce n'est pas la réalité même. Comme Isaac, dans l'image, il est mort, mis à mort, sacrifié, mais pas en réalité. Par contre, le Seigneur Jésus, lui, est entré dans la mort. Et ainsi, c'est le parallèle avec Jonas. Jonas est dans le sens un type du Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il est vraiment le Seigneur Jésus. Il est un type du Seigneur Jésus. Et sa situation ressemble donc à la situation dans laquelle le Seigneur Jésus était réellement. Il est entré dans la mort. Donc on a vu Jonas, ce livre-là, c'est comme une histoire. Mais en même temps, cette histoire a une signification prophétique bien claire et nette. Comme le livre de Daniel, et on a mentionné d'autres cas semblables. On a vu donc Jonas comme un serviteur de l'Éternel, et il était désobéissant. On va voir tantôt sur les diapositives. On a vu aussi comment Dieu est intervenu. Et le résultat était que ces gens-là, dans ce navire, sont convertis, avec la lumière qu'ils avaient, bien entendu. Et puis cela nous parle de la conversion des gentils aujourd'hui. C'est le temps de la grâce. Et encore aujourd'hui, l'évangile de la grâce de Dieu s'adresse aux âmes. Encore beaucoup plus clair que dans ce temps-là, ils n'avaient pas beaucoup de lumière sur Dieu, mais la lumière qu'ils avaient, ils l'ont acceptée, ils ont honoré Dieu. C'était le résultat. Et on voit donc, après qu'ils ont sacrifié Jonas, eux ont accepté le vrai Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Jonas était désobéissant et au moment donné, il a vu qu'il était la cause de tous les troubles de ses marins sur les navires, sur ce navire-là, et puis il s'est donné en sacrifice. C'était la seule solution. Et ainsi, le Seigneur Jésus s'est donné en sacrifice pour nous. Dans le chapitre 2, on a vu donc comment Jonas était là, seul, dans la présence de Dieu. Pour ainsi dire, à l'école de Dieu. C'est une étrange école, n'est-ce pas, être dans l'estomac d'un poisson. Mais là, il était à l'école de Dieu pour être enseigné et aussi pour s'humilier devant Dieu, dans la présence de Dieu. Donc on ne peut pas répéter tout ce qu'on a vu là dans chapitre 2. C'est vraiment un chapitre très riche. Et dans le chapitre 3, on a vu un serviteur restauré. Et vous voyez ce qui est tellement beau dans le chapitre 3, que Dieu voulait se servir encore une fois de Jonas. On dirait, mais Jonas était désobéissant, donc Dieu va le mettre de côté et Dieu va prendre un autre serviteur. Dieu aurait pu faire ça, sans doute. Mais vous voyez, la grâce de Dieu, c'est qu'il voulait se servir de Jonas malgré sa désobéissance. Et on a vu donc beaucoup de leçons pour nous aussi, comment Dieu restaure ses serviteurs pour qu'ils puissent servir selon les pensées de Dieu. On a vu Jean-Marc dans le Nouveau Testament, un serviteur infidèle. Il a été restauré, il est devenu très utile, un serviteur très utile qui a écrit sur la vie du Seigneur Jésus, le vrai serviteur. Et puis on a vu dans Jonas 3 aussi l'évangile qui va être prêché après l'enlèvement de l'Église. Donc on a beaucoup de sujets. C'est pas possible dans quelques minutes de répéter tous ces détails-là, mais juste les grandes lignes. On a vu Jonas comme une image de l'homme, ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Et ce soir, surtout, ce sera notre sujet dans le chapitre 4, de voir ce qui se passe dans le cœur d'un homme de Dieu. On a vu Jonas comme une image d'Israël. Israël infidèle, Israël mis de côté, mais préservé par Dieu. Et plus tard, c'est pour ça que j'ai mentionné l'enlèvement de l'Église, après l'enlèvement de l'Église, Israël, ou le reste fidèle, va avoir une tâche très importante pour prêcher l'évangile du royaume aux nations. Et là, il y aura une récolte merveilleuse. Si vous voulez, vous pouvez le lire dans Apocalypse 7. C'est très remarquable. Une grande récolte. Nous serions déjà très satisfaits si 1% de la population de notre ville ou notre région serait convertie. Mais ici, 100%. Et puis c'était un message d'un homme qui n'avait pas vraiment à cœur le salut de ces âmes-là. Ça, c'est encore très remarquable. Il n'avait pas vraiment à cœur le salut de ces âmes-là. Et quand même, Dieu a utilisé ce message pour que ces gens se convertissent. Dieu donne des avertissements. Et c'est une leçon qu'on a vue aussi la dernière fois. Encore aujourd'hui, Dieu présente ce message. Il présente aux âmes que le jugement viendra. Mais il avertit les âmes afin qu'elles se convertissent. Et encore ce soir, c'est le moment à propos pour se convertir, pour s'humilier, comme cette ville l'a fait. Et le roi a donné l'exemple, vous voyez. Le roi a donné ce bon exemple, se convertir, s'humilier devant Dieu. Donc là, on a vu beaucoup de leçons. Mais on a vu aussi que la vie de Jonas, on a beaucoup de leçons pratiques pour nous. Une chose, on pourrait mentionner peut-être, aujourd'hui aussi l'évangile est prêché. Et dans ce sens-là, il y a un parallèle avec nos jours aussi. Comment le Seigneur, qui est donc présenté par Jonas, c'est le Seigneur qui annonce l'évangile. Dans Éphésiens 2, on voit que c'est le Seigneur qui a mis la base pour la paix, mais c'est le Seigneur aussi qui annonce ce message de la paix. Donc, à travers tout ça, on voit aussi Jonas comme une image du Seigneur. Le Seigneur Jésus qui est entré dans la mort, comme Jonas était dans le poisson. Le Seigneur Jésus comme ressuscité, qui s'adresse maintenant aux hommes. Et on a vu donc que dans ces deux sens, Jonas est une image du Seigneur Jésus. Entré dans la mort, mais aussi ressuscité. Et deuxièmement, il est une image du Seigneur Jésus comme celui qui annonce maintenant le message de Dieu aux hommes. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus est dans la gloire et il s'adresse aux hommes par ses disciples. Si vous êtes un disciple du Seigneur Jésus, même les enfants à l'école peuvent être des disciples du Seigneur Jésus pour annoncer ce message du salut aux âmes. Et c'est ainsi que le Seigneur, qui est dans la gloire maintenant, au ciel, il s'adresse aux hommes par les tiens, par les disciples. Et ainsi, comme j'ai dit, après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur Jésus va avoir de nouveau des disciples. Il va annoncer l'Évangile d'une autre façon, il est vrai, par la, de la grâce de Dieu, mais quand même l'Évangile. Et par ses disciples, il va adresser cet Évangile aux âmes. Donc Jonas est aussi une image du Seigneur Jésus dans ces deux sens. Peut-être je vais montrer les diapositives maintenant et après ça, on va s'occuper du chapitre 4. Parce qu'on pourrait vraiment se demander, mais pourquoi ce chapitre 4? Parce que l'histoire est finie là, après chapitre 3. La conversion des nations, même après l'enlèvement de l'Église, on peut l'appliquer aussi à nos jours, la conversion des âmes. Mais surtout, je pense, chapitre 3 nous parle de la conversion des nations et l'introduction dans le millénium. Tout est prêt, tout est correct là. Pourquoi ce chapitre 4? On pourrait dire, si Jonas est donc une image d'Israël, pourquoi encore ce chapitre 4? On pourrait dire, si Jonas est une image du Messie, sa mort, sa résurrection, de ce message de la paix, pourquoi encore chapitre 4? Ça, c'est la grande question pour ce soir. Si on voit le message ou l'importance de la repentance à travers ce livre-là, et puis 100%, il y avait un effet de 100%. Pourquoi encore chapitre 4? Ça, c'est la grande question. Mais je vais garder cette question-là après les diapositives. Peut-être on peut éteindre la lumière. Voilà. Jonas, il reçoit le message de Dieu. C'était donc le message ou la tâche, la commission d'aller où? À Ninive, c'est vrai? Oui. À Ninive, une ville bien loin de là. Tellement loin, on peut le voir peut-être ici. À gauche, on voit le nom du Liban, là, ça c'est en hollandais, je m'excuse pour ça. Mais là, un peu en dessous, là, le lac de Galilée, c'était la région où Jonas était. Et puis, il devrait aller tout en Mésopotamie, là. C'était une longue distance, un long voyage. Et puis, il n'était pas prêt pour ça. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas, comme on a vu dans le chapitre 1er, il ne voulait pas le salut des nations. Il ne voulait pas que cette nation-là, les Assyriens, seraient sauvés, étaient sauvés. Il ne voulait pas ça. Parce qu'il savait, par la parole de Dieu, que l'Assyrie serait l'instrument entre les mains de Dieu pour châtier Israël. Jonas ne voulait pas y aller. Et ce soir, on va voir aussi encore une autre raison pour laquelle il ne voulait pas y aller. Donc, il s'enfuit. Ça, c'est drôle, ça. Un serviteur de Dieu qui s'enfuit de la présence de Dieu. Et cela peut nous arriver aussi. Chaque croyant, chaque chrétien a une tâche à faire. Et vous voyez, la tâche que Dieu nous donne, il faut la faire. Mais souvent, on a la même attitude. On s'enfuit devant cette tâche. On ne veut pas. Et puis ainsi, on a donc dans Jonas vraiment une image de nous-mêmes lorsque nous sommes désobéissants ou ne pas vouloir faire ce que Dieu nous donne à faire. Et puis là, il arrive donc au port, et puis il s'en va. Il paye le prix, vous voyez. On a pensé à ça dans le premier chapitre. Il a payé le prix. C'est très grave, parce qu'au lieu d'utiliser cet argent-là pour servir Dieu, il a utilisé cet argent-là dans cette désobéissance, dans sa propre volonté, et ainsi, il s'en va. Donc, loin de Dieu, sa conscience fermée, pour ainsi dire, il est là. Il s'endorme malgré la tempête. On voit donc que Dieu envoie la tempête. On a vu que Dieu est en contrôle de tout. On a vu que Dieu est le Dieu créateur qui est en contrôle de tout. C'est Dieu qui envoie la tempête. Et ce soir, on va voir aussi d'autres instruments que Dieu avait à sa disposition. Vous voyez, Dieu a tout à sa disposition. Dieu est le Dieu de la création et ainsi il est en contrôle absolu de tout. Et puis, les matelots ont prié, chacun à son Dieu, et puis, sans changement, ils ont réveillé Jonas. Ils ont dit, mais
qu'est-ce que tu fais là pour dormir? Nous tous, nous crions vers nos dieux. Et puis, tu es là, endormi, crie à ton Dieu. Mais Jonas n'a pas pu crier à son Dieu. Il n'a pas voulu parce qu'il était sur ce chemin de la désobéissance. Il n'a pas pu crier. Par contre, il a donné une confession. Il a parlé du Dieu qui était son Dieu. Il a donné cette confession. On a vu ça dans le chapitre 1er. Une belle confession. Mais ce n'était pas suffisant. La tempête était encore là, vous voyez. Et puis Jonas a vu, c'était la seule solution qu'il se donne en sacrifice. Et puis les matelots n'ont pas voulu accepter ça. Ils ont encore essayé à continuer, mais la tempête est devenue plus intense encore. Et puis là, ils ont crié vers Dieu, ils ont dit, mais Dieu, que nous soyons coupables du sang de cet homme-là. Et ainsi, ils l'ont jeté donc dans l'eau. C'était un moment très solennel. On a vu déjà, ici donc, ils tombent dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il est arrivé après? La calme. Dieu avait envoyé cette tempête pour que Jonas soit jeté dans la mer. Après ça, une calme. Comme nous avons vu, Israël devrait être une bénédiction pour toutes les nations. Mais au lieu d'être une bénédiction, Israël était une cause de trouble. Lorsque il se donne un sacrifice, la bénédiction pour toutes les nations va arriver. On a vu ça dans Romains 11 aussi. La première fois. Dieu envoie maintenant ce poisson. On a vu que ce poisson nous parle aussi de la provision, comment Dieu peut préserver Israël pendant ce temps-là où nous vivons, le temps des nations. Et ainsi, Israël a été préservé par Dieu, comme Jonas a été préservé, englouti par le poisson et plus tard vomi. Mais entre ces deux moments, qu'est-ce qu'il a fait, Jonas, entre ces deux moments? Il a prié. Il a réalisé la présence de Dieu. Il a prié. On a vu, il a cité beaucoup de passages de la parole de Dieu. Et voilà l'importance de mémoriser la parole de Dieu. Dans l'estomac du poisson, il a cité la parole de Dieu. Il a connu la parole de Dieu. Donc c'est un encouragement pour nous aussi à étudier toujours la parole de Dieu, afin que nous puissions l'avoir dans nos cœurs dans les jours difficiles. Et là, on a vu donc, c'est l'image, donc, on ne sait pas si c'est correct, mais Dieu lui a donné une deuxième commission. De nouveau, Dieu a dit, mais va-t'en maintenant à Ninive pour prêcher. Et Jonas y est allé, on l'a vu, et là, il voit donc cette grande ville. On l'a vu dans Jonas 3, l'immensité de cette ville, si dans ces jours-là, c'était une ville très grande. Puis là, il a commencé à prêcher, pas l'évangile, vous voyez, il a prêché seulement, il a annoncé le jugement. Et puis, les âmes étaient touchées. C'était l'œuvre de Dieu en même temps, c'est sûr. On a vu aussi ces grands animaux, là, qui étaient le représentant de la puissance du roi assyrien. Et une image comme ça se trouve encore à Londres, dans le musée britannique. Donc Jonas a prêché, annoncé le jugement. Et puis le miracle, c'était que la ville s'est convertie. Même jusqu'aux animaux, cela avait un effet même aux animaux, selon les instructions du roi. Et ce soir, on va voir encore l'importance même des animaux, du bétail, dans les jeux de Dieu. Donc là, on voit comment toute cette ville s'est convertie. C'est incroyable. Et cela va se reproduire donc dans des jours proches, vraiment, je pense. Dans Apocalypse 7, on le voit comment beaucoup de nations vont se convertir. Mais est-ce que Jonas était content de ça?
Non.
Non, pourquoi pas? C'est ça qu'on va voir ce soir. Il n'était pas content. Ça, c'est donc le sujet de ce soir. Il s'est irrité, mais Dieu, dans sa grâce, il a donné cette protection pour Jonas contre la chaleur. Voilà, Dieu a envoyé ce verre, et puis le kikajon est mort. Donc la protection était partie, et puis Dieu a envoyé un vent très, chaleureux, chaud, et puis Jonas voulait mourir. De nouveau, il voulait mourir. Il s'est irrité. C'est l'enseignement que Dieu lui a donné. Mais c'est la dernière diapositive. On aime croire que Jonas a appris la leçon. Et c'est pour nous aussi, ce soir, cette leçon qui est placée devant nous. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Jonas pour l'enseigner? Peut-être on peut continuer maintenant la lecture de la parole.
Chapitre 4 maintenant. Pourquoi est-ce qu'on lit ça? Mais Jonas trouva cela très mauvais. On a vu donc dans chapitre 3 que toute cette ville s'est convertie, sont revenus de leur mauvaise voie, et ainsi Dieu se repentit du mal. On a vu que Dieu peut se repentir, pas d'une mauvaise chemin, parce que Dieu ne va jamais un chemin mauvais, mais Dieu a vu les conséquences de ce jugement et Dieu a changé dans ce sens-là de pensée. Dans les voies de Dieu, on voit que Dieu peut se repentir. Il a eu pitié de cette ville. On a vu aussi que la génération après, ou la troisième génération après, des Ninivites, s'est endurcie contre Dieu. Et ainsi, Nahum a annoncé le jugement de Dieu de nouveau. Et là, c'était sans repentance. Et le jugement de Dieu est venu sur Ninive plus tard. C'est donc très solennel pour nous aussi. Aujourd'hui, c'est le message du salut. Lorsqu'on s'endurcit, Dieu va exécuter le jugement. Ça, c'est absolu. Mais pourquoi est-ce que Jonas s'est irrité? Il faut réaliser donc que cette grande ville, c'était donc des nations. C'était pas seulement des nations qui étaient méprisées dans les yeux d'un juif, mais surtout le fait que cette nation serait l'instrument dans les mains de Dieu pour châtier Israël. Jonas connaissait la parole de Dieu et dans ce temps-là, Ésaïe avait déjà écrit sur l'Assyrien que l'Assyrien, chapitre 10 d'Ésaïe, serait l'instrument dans les mains de Dieu pour châtier Israël. Et Jonas ne voulait pas ça. Il ne voulait pas que cette grande ville serait donc l'instrument plus tard pour châtier son peuple. Et on voit ici donc une caractéristique très remarquable. Israël s'est endurci contre Dieu. Dieu avait envoyé beaucoup de prophètes pour parler à la conscience d'Israël. Pas de changement. Dieu envoie un prophète maintenant aux nations. Et puis, quel changement? Cette repentance et cette conversion. Malgré ça, on lit donc, Jonas fut irrité. On peut penser aussi au fait que lui était un grand prophète. Et puis, que dire maintenant de ce fait que sa prophétie ne s'est pas réalisée? C'était quelque chose de terrible pour Jonas, pour son prestige. On peut comprendre ça. Mais ça nous montre aussi ce qui se passe dans le cœur de l'homme. C'est ça qu'on voit ce soir dans chapitre 4. Ce qui se passe dans notre cœur. Ce qui est vraiment dans notre cœur. Donc on pourrait dire, Jonas nous enseigne sur Israël, sur le Messie, sur les gentils, la nation, sur l'importance de la repentance, mais ce n'est pas tout. Jonas nous enseigne aussi sur ce que nous sommes en nous-mêmes, notre vieille nature qui est incorrigible. C'est ça qu'on va voir. Et Jonas 4 nous montre aussi ce qui est dans le cœur de Dieu. Dans chapitre 4 à la fin, on va voir plutôt ce qui se passe dans le cœur de Dieu. C'est vraiment merveilleux de voir ça dans ce chapitre. Donc, pourquoi est-ce qu'il était irrité? Voilà, dans chapitre 2, verset 2, il donne la réponse. Et dans la forme d'une prière, ça a l'apparence d'être très pieuse, cette prière-là, mais c'était vraiment des protestes contre Dieu. Et il pria l'Éternel. Quelle prière? Mauvaise, on pourrait dire. Éternel, je te prie, n'était-ce pas là ma parole? Donc, il méprit maintenant la grâce de Dieu. Il dit, quand j'étais encore dans mon pays, c'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsis, car car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et qui te repent du mal dont tu as menacé. Et maintenant, Éternel, je t'en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. Et l'Éternel dit, ça c'est la sagesse de Dieu. Seulement une question, fais-tu bien de t'irriter? C'est la seule question ici que Dieu pose. Voilà, pourquoi donc ce chapitre 4? Je pense que c'est pour montrer ce qui se passe dans le cœur de Jonas. Même après cette expérience, même après la conversion de ces gentils-là, Jonas ne s'est pas encore converti dans ce sens-là. On dirait, après le chapitre 2, mais tout est réglé là. Il a dit dans le verset 10, la délivrance est de l'Éternel. Donc tout est en ordre maintenant avec Jonas. Tout doit être correct avec lui, parce qu'il donne gloire à Dieu. Non, tout n'est pas encore correct avec Jonas. Et ça, c'est une leçon pour nous. Le moment où on s'est converti, on aurait peut-être pensé maintenant, tout est correct. La question entre Dieu et moi est réglée. Oui, d'un sens, oui. Mais vous voyez, vous n'avez pas encore appris ce que la chair est vraiment. Vous n'avez pas encore compris non plus qui est Dieu vraiment, dans sa grâce, dans l'abondance de sa grâce. Et c'est pour ça qu'on a chapitre 4. Pour montrer ce qui se passe dans notre cœur, même après notre conversion. Et on voit donc la repentance pour les nations, ça c'est un très beau sujet, chapitre 3. Mais nous, comme chrétiens, nous avons aussi besoin de la repentance et d'une façon encore plus profonde pour nous humilier dans la présence de Dieu, pour nous humilier à cause de notre chair qui est toujours en rébellion contre Dieu, comme il était ici en rébellion contre Dieu, contre la grâce de Dieu. Parce que même cette prière-là, vous voyez, ça semble être très pieux. Il dit là, tu es un Dieu qui fait grâce et qui est miséricordieux. Mais Jonas n'est pas en accord avec ça. Lorsqu'on compare ce verset-là avec tous les autres passages dans l'Ancien Testament, avec les mêmes expressions, on voit que là, celui qui a mentionné ça était en accord avec les pensées de Dieu. Je voulais juste brièvement mentionner. Moïse, après que le peuple avait introduit l'idolâtrie, dans Exode 32, le peuple était plongé dans l'idolâtrie. On dirait c'est la fin. Non, Dieu a épargné le peuple. Il est vrai, la loi était brisée, heureusement, autrement le peuple serait détruit, mais Dieu a montré sa miséricorde. Et Moïse n'a pas pu comprendre ça. Il a dit, montre-moi ta gloire, laisse-moi voir comment ça se fait que tu es un Dieu juste et saint, et en même temps que tu es miséricordieux. Moïse ne pouvait pas comprendre, mais vous voyez, Moïse avait la bonne attitude, il avait l'attitude d'un intercesseur. Il a prié, intercédé pour le peuple. Quelle différence avec Jonas! Il voulait même que toute cette ville-là serait tuée, avec 1 million d'habitants peut-être. Quel contraste avec Moïse! Donc on peut apprendre de Moïse comment notre attitude devrait être. En accord avec cette grâce de Dieu, en accord avec cette miséricorde de Dieu. Néhémie a prié une prière semblable. Il a mentionné la miséricorde de Dieu. Et vous voyez, le résidu a réalisé donc le fait qu'il était de nouveau à Jérusalem, c'était à cause de la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Et ça, c'est donc une leçon très importante pour nous aussi. Le seul fondement vraiment que nous avons, c'est cette grâce et cette miséricorde de Dieu. Et plus tard, le reste fidèle va réaliser ça. Si vous voulez prendre ce soir peut-être le temps de lire Joël 2, vous allez voir la même expression. Le résidu fidèle parmi les Juifs, Israël, futur, trouveront la même base devant Dieu. Et dans le millénium, dans le psaume 103, si vous voulez lire ça à la maison, qui nous parle de la bénédiction du millénium futur, donc c'est le règne du Seigneur, où tout sera béni, ce sera sur la même base de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et ici, on voit donc que Jonas, ça c'est l'exception, Jonas n'est pas en accord avec cette miséricorde de Dieu et en accord avec cette grâce de Dieu. Et comment est-ce que c'est avec moi? Comment est-ce que c'est avec nous? Parce que vous voyez, c'est très facile à critiquer Jonas, mais qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? ça peut arriver facilement que nous avons la même attitude, que nous méprisons la grâce de Dieu, que nous méprisons la miséricorde de Dieu. C'est très facile que ça arrive. Maintenant, je voulais parler d'Abraham. Abraham, lorsqu'il est sorti du pays, on a vu sur la diapositive aussi le chemin que Abraham a fait. Lorsqu'il est parti de ce pays-là, il avait fait, un deal avec son épouse. Il a dit, dans toutes les places où on arrive, tu diras que tu es ma sœur. Parce qu'elle était très belle. Et on lit dans Genèse 12, lorsque Abraham est arrivé en Égypte, que le pharaon a pris Sarah. Et vous voyez, Abraham n'a pas jugé cette situation. Pourquoi est-ce que je mentionne cette histoire-là? Parce que Dieu est revenu sur cette question-là des années plus tard, dans Genèse 20. Et c'est ainsi avec Jonas. On pensait peut-être, dans Jonas 2, tout était réglé. Non. Dans Jonas 4, Dieu va revenir à cette question-là. Jonas n'avait pas encore jugé dans son cœur cette attitude envers les nations. Il n'avait pas encore jugé la chair, vraiment. Et c'est pour ça que Dieu revient à cette question-là. Comme il a fait avec Abraham, dans Genèse 20, Dieu a permis de nouveau une situation semblable au Genèse 12, afin qu'Abraham juge ce péché-là. Et ici, dans Jonas 4, on a une même situation. Dieu montre maintenant, comme il a fait dans la vie d'Abraham, dans Genèse 20, il a montré ce qui se passe dans le cœur d'Abraham, afin qu'il puisse le juger. Et ainsi, dans Jonas 4, Dieu montre vraiment ce qui se passe dans le cœur de Jonas, sur le fondement de son cœur. C'est bien caché, mais Dieu révèle maintenant ce qui se passe dans son cœur. Et c'est pour nous la même chose. Dieu permet des circonstances de notre vie afin que nous apprenions à juger la chair, juger vraiment la racine du mal, la cause vraiment du mal. Et pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons en accord avec lui, que nous ayons la communion avec lui, que nous ayons la même pensée que lui a. Ça, c'est le but que Dieu a avec ça. On pourrait aussi voir un contraste avec Abraham. Vous voyez, Abraham, il a prié pour la ville de Sodome dans Genèse 18. Abraham avait une bonne attitude là. Jonas, il voulait que le jugement soit exécuté sur Ninive. Abraham était sur la montagne pour voir le jugement sur Sodome. Mais il était là comme intercesseur. Il ne voulait pas que ce jugement vienne sur Sodome. Mais quand même, le jugement est venu. Jonas, vous voyez, il s'est réjoui là. Après ces 40 jours, il a bâti là une cabane, pour ainsi dire. Il s'est bien installé là pour voir le jugement sur cette grande ville. Il s'est réjoui, pour ainsi dire, dans son cœur que maintenant le jugement arrive. Voilà, ça nous arrive facilement. Si quelqu'un est frappé, peut-être des voisins ou des amis à l'école, frappé par un accident, ou il a peut-être une marque très mauvaise à l'école, on se réjouit là. Est-ce que c'est correct ça? Vous voyez, ça c'est ce qui se passe dans notre cœur. On se réjouit dans le mal qui arrive, dans le jugement qui arrive sur ce monde. Et puis, c'est donc aussi des choses qui se passent facilement dans notre cœur. Est-ce que c'est jamais été le cas dans notre vie qu'on s'est réjoui dans le mal qui est arrivé à notre voisin ou quelqu'un qui était très proche de nous? Quel contraste avec Abraham, quel contraste avec Moïse, Moïse qui a prié pour le peuple de Dieu et qui voulait même qu'il soit effacé du livre de Dieu afin que le peuple puisse continuer à exister. J'aimerais toujours comparer Jonas un peu avec Élie. Dans le Nouveau Testament, on ne lit pas des péchés, on ne voit pas de péché mentionné du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu voit son peuple, mais sans penser au péché du passé. Une seule exception. On voit là Élie dans Romains 11 comme l'accusateur des frères. Et ça, c'est très grave. C'est la même attitude de la propre justice, comme Jonas aussi, la propre justice, une attitude pour blâmer les autres, pour critiquer les autres, mais pas pour intercéder, pas pour prier. Et aussi Élie a prié une prière semblable dans le verset 3. « Maintenant, Éternel, je t'en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. C'était la même attitude. Élie avait méprisé aussi, dans ce sens-là, la grâce de Dieu. Quel contraste maintenant avec le Nouveau Testament. J'ai pensé à Siméon. Siméon, dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu a parlé du salut qui va arriver aux nations, Siméon, le juif, s'est réjoui dans ce salut-là. Vous pouvez le lire dans Luc 2. Lorsque le Seigneur Jésus est présenté là, dans le temple, Siméon est arrivé là, et il s'est réjoui dans le salut pour les nations. Quel contraste avec Jonas. Jonas, il voulait mourir à cause du fait que le salut de Dieu arrive aux nations. Siméon, par contre, il s'est réjoui dans ce salut qui arrive aux nations. Quel contraste là. Est-ce qu'on est dans la catégorie de Siméon? Est-ce qu'on est dans la même classe qu'Abraham ou de Moïse? Ou est-ce qu'on s'est placé dans la classe de Jonas? Puis on dirait peut-être facilement, mais on aimerait être dans la classe d'Abraham. Mais si ça va être appliqué à notre situation actuelle, dans ce cas-là, c'est très dur. Si vous êtes à l'ouvrage, là, au lieu de montrer la grâce de Dieu, c'est souvent plus facile à montrer une attitude dure ou être très ferme. Si vous avez là, à l'ouvrage, des gens qui sont peut-être difficiles, ce n'est pas facile à montrer la grâce de Dieu. C'est plus facile à montrer une attitude comme Jonas. Mais Dieu nous a préparés pour être des instruments de la grâce de Dieu, pour montrer la grâce. Donc ici, on voit aussi comment Dieu enseigne Jonas dans les versets qui suivent. Le premier point à mentionner, c'est la simple question que Dieu a posée. Dieu n'a pas commencé tout un débat là avec Jonas, toute une discussion. Il a simplement posé une question. Fais-tu bien de t'irriter? C'est très pratique là aussi. Quelquefois, on va commencer à une grande discussion. Il ne s'en aide pas. Dieu est très sage. On peut apprendre de cette sagesse de Dieu. Il pose simplement une question. Et on voit donc dans cet enseignement que notre chair est incorrigible. Il faut vraiment juger la chair. La chair n'est pas bonne. Ne change pas. Même après notre conversion, ce sera toujours quelque chose qui est haïssable, comme on voit ici dans cette attitude de Jonas. Et puis maintenant, Dieu va donner donc une leçon comme illustration. Quelle est la leçon que Dieu donne? Il envoie donc ce Kikajon, verset 6, il prépare ce Kikajon. C'est de nouveau quelque chose que Dieu a préparé, comme il a préparé le vin, il a préparé le poisson. Maintenant, il prépare ce Kikajon. Dieu a tout à sa disposition. Mais c'est ici pour enseigner Jonas. On va voir plus tard pourquoi. Dieu donne ce Kikajon. Le lendemain, il envoie un ver, et puis le Kikajon sécha. Et puis Dieu envoie un doux vent d'Orient. Et puis là, de nouveau, Jonas a désiré de mourir. Mieux me vaut la mort que la vie. Vous voyez, Jonas n'a pas encore jugé soi-même. Il manque cette connaissance de soi-même. Il ne se critique pas encore. Il pense seulement à soi-même. Il est très égoïste, vous voyez. On pourrait dire, il s'est réjoui à cause du Kikajon. On peut se réjouir à cause des bénédictions matérielles, tout en oubliant les pensées de Dieu. Comme Jonas ici, il s'est réjoui à cause du Kikajon. Mais vous voyez, il n'a pas pensé à cette grande ville. Il n'a pas eu à cœur le salut de toutes ces âmes-là. Il s'est réjoui, il est vrai, du Kikajon. Mais il a méprisé toute une ville. C'est le cœur humain. C'est le cœur aussi de ceux qui sont matérialistes et égoïstes. Et donc, en nous-mêmes, on n'est pas meilleur que Jonas. Il faut que nous tous apprenions cette leçon-là pour juger cette attitude d'égoïsme, matérialisme. Et ainsi, on voit aussi comment Dieu intervient ici. Il a aidé en posant cette question-là. Il a aidé en donnant ce Kikajon-là. Au lieu de le châtier, Dieu a donné tous ces moyens pour aider à Jonas. Mais Dieu, à son temps, envoie maintenant ce vers, verset 7. Parce que c'est l'amour de Dieu qui s'occupe de Jonas. Et l'amour de Dieu peut être dur pour un temps, pour qu'il arrive à son but, pour vraiment restaurer l'âme de Jonas. Maintenant, Dieu dit dans le verset 9, il va maintenant enseigner Jonas. Il prend donc cette leçon-là du Kikajon comme point de départ pour enseigner Jonas. Il dit, fais-tu bien de t'irriter à cause du Kikajon? Il faut y réaliser maintenant, cet arbre-là ou cette racine-là que Dieu avait donnée pour la protection de Jonas, c'était juste une question d'une journée, une nuit et une journée. Jonas n'avait pas créé cette occasion-là. Jonas n'avait pas travaillé, comme Dieu le dit dans verset 10, pour avoir cette occasion-là. C'est Dieu qui lui a donné cette occasion-là. Donc, Dieu lui donne cet enseignement par cette illustration pour lui montrer maintenant l'importance de cette grande ville. Autre mot, cet arbre était plus important pour Jonas que toute la ville, avec peut-être 1 million d'habitants. Imaginez-vous, une simple racine là, un petit arbre là, était pour Jonas beaucoup plus important que toute cette ville, avec toutes ces arbres. En rapport avec nous, est-ce qu'on a la même attitude que Jonas? On doit dire oui. Selon notre chair, selon notre cœur humain, on aurait la même attitude que Jonas. Et c'est ça que Dieu veut nous enseigner, afin que nous jugions cette attitude-là. Jonas, il était irrité. On peut avoir une colère selon les pensées de Dieu. On peut voir dans Éphésiens 4. Mais cette colère-là de Jonas n'était pas selon les pensées de Dieu. Cette colère-là, c'était, comme on a vu, l'égoïsme. À cause de son égoïsme, à cause de son chauvinisme aussi. Il ne voulait pas que le salut de Dieu arrive aux nations. Tout cela doit être jugé maintenant. Il doit apprendre la grâce qui est dans le cœur de Dieu. Dieu va le montrer maintenant. Dieu dit, maintenant, tu n'as pas travaillé pour cette occasion? Imagine-toi, Jonas. Moi, je suis le créateur de toutes ces âmes-là. Je suis le créateur, verset 11, il le dit, il y a plus de 120 000 êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire, des êtres humains? Des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Peut-être les enfants diraient, mais on n'est pas des êtres humains, non? Vous êtes aussi des êtres humains. Et Dieu aime ces créatures. Dieu aime les petits bébés. Dieu aime même les bébés qui ne sont pas encore nés. Aujourd'hui, vous voyez, des millions et des millions de petits bébés qui sont encore dans le ventre de la mère sont tués par l'avortement. Dieu aime sa créature. C'est Dieu qui a donné cette vie-là, même cette vie qui n'est pas encore née. Et Dieu s'occupe de cette vie-là. Dieu dit ici à Jonas, mais imagine-toi maintenant, cette million d'âmes est beaucoup plus important pour moi que cette occasion. Moi, j'ai donné cette occasion-là, mais tu n'as pas travaillé pour ça. Les enfants qui ont travaillé pour avoir une récompense peuvent comprendre ceci. Si vous avez travaillé dur pour avoir une récompense, ou peut-être vous avez travaillé dur pour faire un petit bateau, vous aimez ça, vous ne voulez pas perdre ça. Ainsi, quelque chose qu'on n'a pas travaillé pour, on n'apprécie pas tellement. Comme Jonas, il n'avait pas travaillé pour cette occasion, donc cela lui était égal, ce qui se passe avec cette occasion. Ce n'était pas tout à fait le cas parce qu'il s'est irrité à cause du fait que l'occasion s'est disparue, mais quand même, il n'avait pas travaillé pour ça. Mais Dieu, en autre mot, il est le créateur de cette ville-là, de cette nation-là. Il était le créateur de ces 120 000 enfants. Vous voyez, êtres humains qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur gauche. Ça veut dire Dieu s'occupe des petits-enfants. Quelquefois on dirait, mais Dieu est grand, Dieu s'occupe des adultes. Non, ici on voit que Dieu s'occupe aussi, surtout des enfants. Dieu sait ce qui se passe dans le cœur d'un petit-enfant. Et Dieu aime que tous les enfants soient sauvés. La grâce de Dieu s'adresse aux enfants. Et ici, on a beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si tous les enfants ont accepté déjà le Seigneur Jésus. Mais une chose est sûre, Dieu vous aime. Et Dieu aime les enfants, et même les petits bébés. Il veut que tous soient sauvés. Et ainsi, on voit la grâce de Dieu. Le cœur de Dieu est plein de grâce, plein de pitié. Parce que vous voyez, chaque homme, chaque femme, chaque enfant est plongé, disons, dans la misère, comme cette grande ville était plongée dans la misère. C'était leur faute, ce n'était pas la faute de Dieu, vous voyez. C'était leur propre faute. C'est la faute de l'homme qui est dans cette misère-là. Mais quand même, malgré cela, Dieu aime le pécheur. Dieu n'aime pas le péché, ça c'est très clair. Parce que même dans le cas de Jonas, Dieu juge le péché. Et Dieu travaille afin que Jonas lui-même aussi apprenne à juger la chair, à juger le péché. Mais Dieu aime le pécheur. Et ainsi, Dieu a pitié de Ninive. Mais vous voyez ce qui nous frappe, Dieu a pitié aussi de Jonas. Malgré cette attitude, on peut penser au fils prodigue peut-être. Si on compare Ninive, cette grande ville, on pourrait penser au fils prodigue qui s'est converti. Mais vous voyez, dans cette histoire-là, il y a aussi le fils aîné. Si vous voulez le lire ce soir dans Luc 15, Et puis, qu'est-ce qui se passe avec le fils aîné? Le père sort pour parler à son cœur. C'est la même situation qu'on a ici. Dieu a beaucoup de patience avec Jonas. On a vu cette patience parce que Dieu voulait servir de Jonas dans chapitre 3. Et même Dieu, ici, Dieu prend beaucoup de soin de Jonas. Il donne ce qu'occasion, il donne beaucoup de choses pour parler au cœur de Jonas. Et Dieu prend aussi beaucoup de temps pour parler à la conscience de Jonas et parler à son cœur. Ainsi, on pourrait dire, Dieu prend beaucoup de temps pour parler à ce fils aîné qui savait les pensées de Dieu, qui connaissait les pensées de Dieu, qui était bien au courant avec les pensées de Dieu. Mais son cœur, vous voyez, est très loin de Dieu. Dieu parle à lui pour qu'il change d'idée. Et aussi, on a vu la dernière diapositive de Jonas. Probablement là, il était restauré. Il s'en est allé, mais avec Dieu. Il a vu, il a jugé. On aime croire ça. Il a jugé sa chair et puis il est allé son chemin avec Dieu. Que nous puissions faire la même chose. Avoir cette expérience est très dure. Passer à travers de telles expériences que Jonas a dû passer à travers, c'est très dur. Mais c'est pour notre bien, vous voyez. Dieu permet ce chapitre 4 afin que nous jugions notre chair et notre cœur après la conversion. Vous voyez, seulement après notre conversion, on va apprendre vraiment ce qui est au fond de notre cœur. Avant ça, on ne réalise pas ça. Mais après la conversion, on réalise mieux ce qui se passe dans notre cœur. Et puis Dieu donne tout ce chapitre-là pour nous apprendre à juger la chair, juger cette attitude mauvaise, égoïste, et à nous apprendre aussi de critiquer nous-mêmes au lieu de critiquer les autres. Et en même temps, à apprendre qui est dans le cœur de Dieu, comment Dieu est plein de pitié, plein de grâce, plein de miséricorde. Et on voit même envers le bétail. Dieu mentionne ici le bétail. C'est pas pour rien ça. Parce que Dieu est le créateur. Et puis Dieu, à un moment donné, il va changer la situation aussi pour le bétail. J'aimerais finir avec ce verset-là dans Romains 8. On voit qu'à cause de la chute de l'homme, toute la création est maintenant en désordre, on pourrait dire, que même les animaux souffrent. Et dans Romains 8, nous lisons verset 19. « Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie. Dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes. » Donc ce qu'on voit ici dans le chapitre 8, Dieu va libérer toute la création, même les animaux qui souffrent encore des effets, des conséquences du péché de l'homme, Dieu va prendre soin de ça. Et c'est pour ça, je pense aussi, que Dieu mentionne ici le bétail. Dieu prend soin même des animaux qui auront une place dans le millénium, et ainsi Dieu va prendre soin de toute la création. Et un jour futur, donc, dans le millénium, tout sera en ordre selon les pensées de Dieu. Mais on n'est pas encore là. Mais pour nous, ce qui compte, réaliser les pensées de Dieu, selon Romains 8, et jouir déjà maintenant de cette grâce de Dieu, sa pitié, avoir la même attitude que Dieu. C'est ça que Dieu veut vraiment. Si nous sommes des fils, si nous sommes des serviteurs de Dieu, il veut que nous soyons en harmonie avec lui, que nous ayons les mêmes pensées que lui. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il nous élève. On est ici à l'école de Dieu, de nouveau, dans Jonas 4. Une autre école que Jonas 2, il est vrai, mais quand même, on est là à l'école de Dieu, afin que nous soyons vraiment en accord avec les pensées de Dieu. Maintenant, je réalise que je n'ai pas pu parler de tous les détails. S'il y a encore des questions, même sur les autres chapitres, on aurait peut-être quelques minutes pour les questions avant de terminer, ou des remarques, comme la propre justice, ou quelle est ta pensée? Comme Jonas, on voit dans ce chapitre-là, était vraiment rempli de propre justice, rempli d'égoïsme, et c'était la même chose avec Élie. Élie avait servi Dieu, il est vrai, chapitre 18, mais dans chapitre 19, il pense qu'il était le seul qui est resté là. Donc là, on voit son égoïsme et aussi manque à saisir vraiment les pensées de Dieu. Ça, c'est le parallèle, vraiment. Oui, on a vu donc beaucoup d'arguments pour ça. Il ne voulait pas aider une nation qui serait l'instrument entre les mains de Dieu pour châtier sa propre nation. Il ne voulait pas perdre son prestige, comme tu l'as remarqué, et perdre son prestige comme prophète. Mais surtout, on a ici ce chapitre-là pour montrer ce qui se passe dans son cœur, parce qu'il revient maintenant à ce qui s'est passé dans le chapitre 1. On voit maintenant, comme on l'a vu aussi dans le cas d'Abraham, que Dieu va montrer ce qui se passait vraiment dans le cœur de Jonas. Après tout ce temps, après toute cette expérience-là, c'est montrer maintenant ce qui se passe dans son cœur. Donc, il ne voulait pas, au fond, vraiment accepter la grâce de Dieu envers les nations. Ça, c'est peut-être la raison principale. Comme en général, les Juifs avaient de la misère avec ça. Mais dans l'école de Dieu, à l'école de Dieu, on peut apprendre ça, comme Siméon l'a appris dans Luc 2, par l'égoïsme, par manque aussi de manque de juger notre propre cœur, aussi manque de connaissance de soi-même. Comme j'ai dit, le moment de notre conversion, on pense tout est correct avec Dieu. Mais Dieu permet des circonstances pour montrer vraiment, pour nous montrer vraiment ce qui se passe dans notre cœur. Et beaucoup de temps après, comme dans le cas d'Abraham, c'était bien des années après que la question est réglée vraiment. Donc Dieu prend son temps pour ça. Et puis c'est important à réaliser que nous, comme chrétiens, ne sommes pas meilleurs que les gens de ce monde-là. Ça, c'est la première leçon. Mais deuxièmement, on n'est pas meilleur que d'autres chrétiens. On n'est pas meilleur que d'autres serviteurs de Dieu même. Et puis, il faut vraiment que tout et chacun, tous et chacun apprennent ces leçons-là. Je suis sûr de ça. Parce que à l'école de Dieu, on doit apprendre. Peut-être un point à mentionner, j'ai oublié. Jonas était dirigé par ses émotions aussi. Il s'est réjoui à cause du quiquasion. Et le lendemain, il s'est irrité. Voilà ce qui nous arrive aussi facilement, qu'on est dirigé par nos émotions, mais on n'est pas dirigé vraiment par les pensées, ou dirigé aussi par les circonstances qui sont différentes. Et on voit aussi la même attitude plus tard avec les pharisiens, de cette propre justice, de cet aveuglement aussi, comme Jonas était dans ce sens-là aveugle, en rapport avec sa propre situation, il n'a pas vu ça. Et Dieu a permis donc ces leçons-là pour l'enseigner. Le pharisien dans Luc 17, je pense, il prie à Dieu aussi, mais il était incrédule, tandis que Jonas, il était croyant, et quand même, la même attitude de propre justice et l'égoïsme, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à juger. C'est peut-être une pensée très négative pour arrêter, mais on voit donc à la fin, je pense bien, Dieu laisse Jonas seul, et moi j'aimerais croire qu'à l'école de Dieu, Jonas a appris cette leçon-là. Et c'est entre Dieu et Jonas, vous voyez. C'est la même chose pour nous. Dieu ne révèle pas aux autres ce qui se passe dans notre relation entre Dieu et lui. C'est entre lui et nous. Et puis, c'est pour ça peut-être aussi ce silence. Mais je suis sûr que Dieu est arrivé au bout. Dieu a eu, dans ce sens-là, du succès, parce que Dieu est le meilleur instituteur.